David Van Reybrouck est belge flamand, mais c'est avant tout un couteau suisse. Randonneur, archéologue préhistorien, diplômé de Cambridge, écrivain régulièrement primé, journaliste, poète et auteur de théâtre.
On te lave le cerveau. I won't
let you down. Ce brillant touche-à-tout s'est fait connaître du grand public en 2010 avec un best-seller, Congo, 900 pages, 6 ans de travail sur l'histoire de l'ancienne colonie belge.
À Bruxelles, il y avait ce roi qui râlait un petit peu d'être roi d'un si petit pays qui était la Belgique. Il entend parler de cet explorateur britannique Stanley qui vient de faire la première traversée de l'Afrique centrale et Léopold II tout de suite le convoque pour lui charger de fonder une colonie de l'autre côté.
La force de David Van Reybrouck, c'est de raconter la petite histoire dans la grande, d'aller chercher les témoignages. L'écrivain aime les rencontres et ce jour-là, il n'est pas déçu. Le musicien Manu Dibango s'est invité à l'une de ses conférences.
Partager la scène avec un grand idole de ma jeunesse, Manu Dibango, tout à l'heure, je ne pouvais pas croire mes yeux. J'ai qu'un seul souci, je n'ai pas pu prendre photo, j'ai vu qu'il y a plusieurs photos. S'il vous plaît, envoyez-moi sur Facebook cette image clé, parce que j'en suis tellement, je suis vraiment ému.
Toujours enthousiaste, l'ancien étudiant en philosophie milite pour réveiller la démocratie en tirant au sort des citoyens au lieu de les élire, comme au temps des Grecs.
Le titre de ce livre est « Contre les élections ».
Une proposition saluée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, une consécration.
Une idée intéressante avancée par M. Reybrouck empêcherait la formation de classes politiques intéressées et auto-entretenues, déconnectées de leurs électeurs.
À 49 ans, David Van Reybrouck se lance dans une nouvelle bataille, celle du climat, avec une idée fixe. Comment lui, l'archéologue, peut-il devenir un bon ancêtre pour les générations futures ?
Alors David Van Reybrouck, on a vu votre émotion lors de cette rencontre avec Manu Dibango, qui est un grand souvenir. Dans ce livre, Aude, il y a un certain nombre de personnalités connues, David Bowie, Leonard Cohen, Kofi Annan, quelques autres, et puis surtout, il y a des personnages assez méconnus du grand public, un poète congolais méconnu, un procureur polonais, qui est celui qui a en fait initié, théorisé le premier l'idée de crime contre l'humanité, votre femme de ménage aussi, vous racontez à quel point cette personne vous est chère. C'est un panthéon extrêmement personnel, c'est une volonté de votre part justement de rendre hommage à des gens qui vous touchent particulièrement sans forcément être connus du grand public.
Je pense que c'est le livre le plus intime que j'ai fait. De petits textes assez courts où j'exprime mon amour pour certaines choses, certaines personnes, certaines œuvres d'art, certaines idées. Et à vrai dire, écrire ce livre, c'était un acte de... C'est en fait... Je ne sais pas s'il faut lire ce livre, mais il faut l'écrire soi-même.
Il faut le lire, je vous confirme.
C'est bien gentil de votre part. Mais chanter l'éloge des choses qui vous sont chères, ça vous fait du bien. Ça nourrit sa gratitude, il faut bien nourrir. Sinon, on devient aigre. Et je trouve, surtout maintenant en confinement, c'est davantage important, je crois, de dire ce qui va bien, de ce qui est beau, ce qui est joli.
Une respiration.
Anne. Et justement, c'était exactement ce qui m'a marqué dans la lecture de votre livre, c'est que cet exercice d'admiration et d'émerveillement permanent, ça détonne par rapport à l'humeur du moment et de l'époque, qui est beaucoup plus dans le dénigrement, la raillerie. Est-ce que c'est quelque chose de voulu ? Est-ce que c'est ou quelque chose de naturel ? Est-ce que vous l'avez pensé comme ça, en fait ?
Je pense que j'ai un certain talent, mais il faut le nourrir, comme chaque talent. Donc j'ai bien sûr aussi mes côtés, je ne sais pas, aigres, où je dis « j'aime pas », où je suis frustré. Et je trouve, notamment dans cette période, c'est plus dur. Mais c'est juste à ce moment-là qu'il faut faire l'effort de... Allez, aujourd'hui, c'est une magnifique journée.
Le printemps, oui.
Le printemps, c'est la première fois que je passe à Paris depuis plus d'un an.
Et vous êtes émerveillé. Vous avez...
Mais
là,
oui.
Pour venir, vous êtes émerveillé. Vous auriez pu écrire une ode.
Oui, la lumière est magnifique.
Il y a une ode au printemps. Il y a la nature aussi, le gypaète barbu. Enfin, la nature qui vous est chère, l'écologie.
Bien sûr. C'est essentiel. Et j'en parle très peu. La nature, c'est vraiment un peu mon jardin secret, pour le dire ainsi. J'ai toujours pas trouvé des mots qui conviennent à exprimer mais mon sentiment de gratitude vis-à-vis de la création.
Et il y a un autre thème qui vous est cher, David Van Reybroek, un thème sur lequel vous vous êtes engagé, c'est toute une réflexion et des idées pour régénérer nos démocraties, nos fonctionnements démocratiques assez fatigués. Et précisément, eh bien, il y a eu un appel publié il y a quelques jours, Nadia.
Oui, qui concerne le vote à 16 ans comme remède à cette crise démocratique que vous décrivez régulièrement. C'est une idée qui est assez souvent avancée dans le débat public. Elle vient donc d'être remise sur la table. C'était le week-end dernier. Une centaine d'élus avec une centaine de jeunes citoyens français donc ont publié cette tribune qui réclame l'abaissement du droit de vote à 16 ans. On y avait d'ailleurs consacré un débat ici dans cette émission. C'était lundi. Selon eux, ça permettrait, et c'est assez contre-intuitif d'ailleurs parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'abstention chez les jeunes, mais ça permettrait à terme, de lutter contre l'abstention en ancrant en ces jeunes le goût du vote. Ça leur permettrait également à ces jeunes toujours d'être écoutés à défaut d'être entendus. Là, dans ce cas précis, on parle d'élections municipales en France. Je signale qu'en Belgique, le droit de vote pour les 16-17 ans aux élections européennes, ça a été décidé il n'y a pas très longtemps, pour les prochaines élections européennes. Donc qu'est-ce que ça changerait de pouvoir voter plus jeune, de pouvoir voter à 16-17 ans?
Ça peut aider, mais ce n'est pas ça qui va faire la différence.
Ouais.
Parce que voter, c'est toujours se taire, en quelque sorte. On a le droit de vote, on n'a pas le droit de la parole. Et je pense qu'on est en train, nos grandes démocraties sont en train de vivre une transition d'un système démocratique assez passif, où on peut s'exprimer en colorant une bulle à côté d'un nom ou un concept dans un référendum. Mais toujours reste-t-il qu'il faut se taire dans le contexte de cet isoloir. Déjà, c'est assez bizarre que l'architecture principale de notre démocratie, c'est un isoloir.
Alors, c'est parce que c'est confidentiel, le choix politique.
Bien sûr, bien sûr, et c'est voulu. En même temps, on découvre que la volonté populaire peut s'exprimer de plusieurs façons. Le vote est important, bien sûr, gardons-le.
Il faut le garder.
Bien sûr, mais à côté de cela, faisons des choses qui permettent de mieux exprimer. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par rapport à ce vote? On n'a pas, entre deux tours des élections, qu'est-ce que le citoyen peut dire à ses élus par rapport à ses préférences? On sait à peine. Le confinement, le Covid est venu entre-temps. Mais on ne s'exprime pas de façon orale. Comment veut-on? Et donc, je trouve que, par exemple, en France, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat.
Les citoyens tirés au sort, 150 citoyens tirés au sort. Vous êtes favorable vous-même au tirage au sort, David Van Reybroek?
Absolument.
Pourquoi? Qu'est-ce que ça a de plus démocratique?
Parce que là, on a un échantillon représentatif de la totalité de la société française, avec une richesse et une diversité qu'on ne voit pas souvent dans l'Assemblée ou dans le Sénat. Et donc, là, c'est la France dans la Convention citoyenne pour le climat. C'était vraiment la France elle-même qui parlait, qui s'est exprimée, pas juste à travers ses tripes, parce que très souvent, un référendum, là, on demande aux gens ce qu'ils pensent quand ils ne pensent pas, mais dans l'Assemblée citoyenne qu'on a vue ici en France, c'était vraiment des recommandations des citoyens qui ont dû s'informer sur les défis climatiques.
Mais tout de même, David Van Reybroek, est-ce que ce n'est pas un peu jeter le bébé avec l'eau du bain? C'est-à-dire, est-ce que finalement, en effet, les dysfonctionnements de nos démocraties, des élites dirigeantes qui ne sont peut-être plus assez représentatives, ne doivent pas être améliorées là, plutôt que par la démocratie directe, puisque c'est le grand terme à la mode? Mais finalement, est-ce que l'expertise et la responsabilité n'ont pas un rôle à jouer dans la politique et dans la représentation de la politique?
Oui, mais les dysfonctionnements sont assez nombreux pour œuvrer sur plusieurs chantiers. Donc oui, effectivement, changer l'âge de vote jusqu'à 16 ans, ça peut aider. Changer la composition parlementaire, c'est pour ça qu'on a les élections. Mais faire à ce que le citoyen français, belge ou autre, puisse s'exprimer à travers d'autres dispositifs, pourquoi pas? Il faut travailler sur plusieurs chantiers à la fois.
Alors,